Le jeudi s'allie l'intime et l'agréable. C'est le grand format de la JT du local.
Il y a des enfants dont on ne connaît ni l'âge exact ni le pays d'origine, des enfants dont on dit qu'ils sont présumés mineurs, comme si même l'enfance était devenue un doute administratif. Ils ont quitté un endroit du monde pour en rejoindre un autre et quelque part entre deux frontières, ils ont perdu ce mot simple, protection. Ils ont 16 ans, parfois moins, et ils dorment dehors dans des chambres prêtées sur des lits d'appoint en attendant qu'un juge quelque part leur dise « Enfin, oui, tu es bien un enfant ». Et pendant que la justice prend son temps, d'autres ne peuvent pas attendre. Des citoyens, des gens ordinaires, ouvrent leurs portes, inventent des solutions là où il n'y en a pas, comme si la fraternité ici n'avait pas perdu, mais s'était simplement déplacée dans les cuisines, les couloirs, les maisons anonymes de la Mayenne. Alors aujourd'hui, on s'interroge jusqu'où peut aller la solidarité quand l'État s'efface. Qu'est-ce qu'on peut, à la place des institutions, offrir un toit, un peu de chaleur, un morceau de dignité? Et combien de temps peut-on le faire sans s'épuiser? Alors aujourd'hui, on tend le micro à celles et ceux qui, ici, ouvrent leurs portes quand plus personne ne les ouvre. C'est le grand format de votre émission quotidienne qui commence. Le grand format, c'est une réflexion, une discussion, et elle ne se fait jamais seule. Et oui, c'est parti pour l'entretien du jour.
Vous écoutez la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Ce 7 octobre dernier, l'association Hébergeurs Solidaires 53 publiait un communiqué pour tirer la sonnette d'alarme. En Mayenne aussi, des mineurs isolés se retrouvent sans hébergement, sans protection, dans l'attente d'une décision de justice qui tarde à venir. Face à ces manquements de l'État, des citoyens se mobilisent, ouvrent leurs portes, inventent des formes de solidarité qui pallient les défaillances publiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Didier Maignan et Bénédicte Moreau, membres de l'association Hébergeurs Solidaires 53, pour en parler. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec moi.
Bonjour Margot.
Bonjour Margot.
Alors avant de parler de la situation des mineurs isolés, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce qu'est l'association Hébergeurs Solidaires et ce qu'elle fait concrètement sur le territoire ?
Alors l'association Hébergeurs Solidaires est née il y a une dizaine d'années environ à Laval, pour accueillir des jeunes migrants mineurs isolés, donc sans représentant légal, et qui se trouvent débarqués quelque part à la gare de Laval, par exemple, pour les accompagner dans leurs démarches administratives, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas à la rue et veiller à ce qu'ils puissent au minimum avoir des soins et une éducation. La théorie veut que, selon les engagements internationaux de la France, tout mineur, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, a besoin d'une protection. Or, quelquefois, ça prend un peu de temps, ça prenait un petit peu de temps. Aujourd'hui, ça prend de plus en plus de temps. Et face à cette situation de jeunes qui étaient notamment à la rue, eh bien, il y avait d'abord la solution d'urgence, leur trouver un logement, les héberger et les mettre à l'abri.
Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux, personnellement ou collectivement, à vous engager dans cette cause ?
Bah, écoutez, moi, en ce qui me concerne, au niveau de la famille, on a vu un jour sur les réseaux sociaux, une alerte de jeunes qui dormaient à la gare, voilà, et que effectivement, il n'y avait personne pour les héberger, et que le 115 étant saturé, et c'était un collectif de citoyens, alors ça marchait de façon très simple, hein, c'était par un WhatsApp, un tel est à la gare, et puis on allait les chercher, donc quelque part, on se dit, bah oui, on a une maison, on peut accueillir quelqu'un sans problème, donc voilà comment on s'est lancé un petit peu dans l'aventure.
Et
nous aussi, de notre côté, c'était il y a quelques années, sollicité par un appel à l'aide de l'association. Un jeune qui avait besoin d'un hébergement, il avait été hébergé temporairement au 115, mais ça avait du mal à perdurer. Et donc, on a pris en charge un jeune qui arrivait de Guinée, et qu'on a hébergé à la maison pendant plusieurs semaines. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Dans votre communiqué du 7 octobre, vous parlez d'une urgence humanitaire et juridique. Quelle est la situation aujourd'hui en Mayenne pour ces jeunes en attente de reconnaissance de minorité ?
Bah, en fin de compte, on tire la sonnette d'alarme parce que, au-delà de la Mayenne, on fait partie, nous les hébergeurs, d'une coordination nationale qui s'appelle des jeunes exilés en danger, qui regroupe toutes les associations qui peuvent avoir la même fonction que nous. Et en fin de compte, quand on a des échanges, bah, on se rend compte qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés. En fin de compte, il faut savoir que quand les jeunes ils arrivent sur le territoire français, c'est d'abord de la compétence du conseil départemental d'évaluer si ces jeunes sont mineurs ou majeurs. Donc ils sont mis à l'abri. Alors nous, ce qui nous concerne en Mayenne, ils sont mis à l'abri un petit peu avant pour pouvoir se reposer et être en capacité de répondre aux questions. Et à la suite de cette évaluation, on dit voilà, nous, on pense qu'ils sont mineurs ou majeurs. S'ils sont mineurs, ce sont des jeunes souvent que l'on ne voit pas puisqu'ils sont pris en charge par les services de la protection de l'enfance du département. Mais par contre, s'ils sont évalués majeurs, ces jeunes ont la possibilité de faire un recours devant le juge des enfants. Voilà, et c'est à ce moment-là que ces jeunes-là, ils se retrouvent à la rue. Et c'est là qu'on intervient, puisque bien souvent, on est appelé par le 115 en disant, voilà, il y a un jeune qui arrive là, qui souhaiterait faire son recours, est-ce que vous pouvez l'aider ? Et c'est là qu'on va essayer de trouver une famille et de l'accompagner. Et donc voilà, et donc effectivement, la coordination nationale, on met un petit peu l'alerte, c'est de se dire, ces jeunes qui sont évalués dans un premier temps majeurs et mineurs, le délai de recours devant le juge des enfants est long, donc ils se retrouvent dehors. Donc en fin de compte, on se dit, bah, et c'est surtout qu'il y a un taux de reconnaissance qui est au niveau national de 70% de jeunes déclarés finalement mineurs devant le juge des enfants, mais n'empêche que ces jeunes-là, pendant tout ce temps-là, ils sont dehors. Ils ne peuvent pas être scolarisés ou difficilement, ils ont très peu accès aux soins, à l'éducation, voilà. Et on se dit, bah, quelque part là, ça ne représente pas non plus un volume important par rapport à ce qu'on peut entendre, c'est quand même pas un volume important, et on peut peut-être se dire que ces jeunes-là, ils pourraient être hébergés le temps du recours.
Et les délais s'allongent de plus en plus. C'est ça aussi qui nous interpelle, c'est que autant il y a quelques années, ça pouvait prendre quelques semaines, quelques mois, aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile et c'est carrément un an, deux ans, à tel point que souvent la reconnaissance de la minorité intervient alors qu'ils sont déjà majeurs.
À quoi ressemble le quotidien justement quand il y a une attente comme ça qui se rallonge ? Vous dites qu'ils sont... à la rue, sans éducation, sans moyen d'être accompagné en termes plutôt médical, en termes de santé. C'est des gens qui attendent, en fait, dehors.
Oui, alors, ça, on peut dire au niveau national, c'est dans les grandes villes, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, en Mayenne, on a quand même cette chance, c'est qu'on arrive à scolariser ces jeunes-là quand ils sont pris en charge par des familles où il y a aussi des jeunes qui sont au 115, parce qu'on a aussi cette chance-là, il faut le dire, que le 115 accepte les mineurs, même s'ils sont mis avec des majeurs, voilà, ça dépanne quand même, et on arrive quand même à scolariser ces enfants-là, et il y a des jeunes qui vont aller 2 ans à l'école et qui vont avoir une reconnaissance de minorité au bout de ces 2 ans-là. Donc il y a des jeunes qui obtiennent des diplômes CAP, voilà, donc c'est pas du temps perdu, mais en fin de compte, c'est pas du temps perdu parce qu'ils sont pris en charge dans des familles, par des bénévoles, sinon c'est des gamins, qui errent, qui vont de ville en ville, qui traînent et qui n'ont aucun repère.
Comment est-ce qu'on explique l'allongement des délais judiciaires passés de quelques mois à près de 2 ans ?
Alors c'est difficile à expliquer, nous-mêmes nous ne sommes pas derrière les raisons de ces allongements, mais on peut présumer que ce sont d'abord des questions budgétaires, de moyens financiers, moyens de la justice. Il est certain qu'à Laval, il y a un juge pour enfants, mais il y en aurait 2, ça diminuerait sans doute.
Il y en a 2.
Oui, il y en a 2, alors ouais. Il y en aurait un troisième,
ça
diminuerait les délais. Les services sociaux ont aussi des moyens limités. Le 115, dans ses capacités d'hébergement, est bien sûr limité. Les services de l'enfance du département ont aussi des moyens limités. Ce qui fait que face à ces recours de jeunes, les choses tardent.
La part des jeunes filles a presque doublé en un an également, vous le signalez. Qu'est-ce que révèle cette évolution et quels risques particuliers cela pose ?
Bah, écoutez, nous, on connaît deux jeunes filles qu'on a eu à accompagner, dont une actuellement. Bah, en fin de compte, ces jeunes filles-là, elles sont aussi au 115, avec tout ce que ça peut comporter, parce que c'est quand même des jeunes filles vulnérables. Donc même si on est loin des grandes villes, il n'empêche que on peut penser à la prostitution ou des réseaux qui sont en place sur Laval. Où, voilà, là actuellement on a une petite jeune fille, qui a un enfant tout jeune, qui a été reconnue majeure par les services du département. Nous, on considère, alors on n'est pas des avocats, mais on a quand même des avocats qui nous accompagnent dans l'accompagnement de ces jeunes-là au niveau juridique, qui d'après lui dit que cette jeune devrait relever d'une demande d'asile, qui est encore une procédure différente que la minorité. Et en fin de compte, cette jeune fille-là, on a eu du mal à lui avoir un rendez-vous. Donc à la préfecture de région à Nantes qui enregistre les demandes d'asile. Et ça fait 3 fois qu'elle va à la préfecture de région. On lui a remis un document pour demander qu'on puisse faire, nous, en tant qu'association, alors ça nous engage aussi en tant que citoyens, de demander au parquet la désignation d'un administrateur ad hoc, en fin de compte, qui va être le représentant légal et qui voit une situation de jeune en danger, parce que c'est le cas. Et donc, on a fait la demande, on a reçu une réponse qui ne correspondait pas, a priori, de ce que nous a dit l'avocat, à ce que c'est qu'une demande d'asile. Donc, on a refait un courrier. Et aujourd'hui, cette jeune-là, elle n'a toujours personne de désigné. Elle est dehors avec son petit garçon. Elle se rend au rendez-vous à la préfecture de région pour lui entendre dire que, tant qu'il n'y a pas la délivrance d'un administrateur ad hoc, il n'y aura pas de dossier d'enregistré. Donc, en fin de compte... Pour nous, bénévoles, on ne comprend pas tout, parce que déjà, on n'est pas de la partie juriste, on est là plus pour accompagner avec le cœur. Et des fois, on peut se dire, c'est un petit peu un sentiment d'injustice, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui fait que nous, en Mayenne, on n'arrive pas, les jeunes, les enfants, n'arrivent pas à déposer de demande d'asile. Voilà, ça, je ne sais pas.
Si on parle du rôle de la solidarité citoyenne dans cette situation qu'on vient de décrire, comment est-ce que ça s'organise concrètement l'hébergement citoyen en Mayenne pour pallier justement à ce manque ?
Comme toute association, donc on est un groupe de personnes bénévoles, volontaires, prêtes à recevoir un jeune à leur domicile. Alors on est un groupe assez restreint. C'est aussi un peu un appel qu'on peut lancer parce que c'est toujours les mêmes qui hébergent temporairement un garçon ou une jeune fille, mais surtout donc des garçons. Plus on est nombreux, plus c'est facile. Alors on fonctionne tout simplement, on a un groupe WhatsApp et puis y en a un qui est de permanence, d'astreinte entre guillemets pendant une semaine et qui est disponible pour répondre aux sollicitations du 115 ou de d'autres sollicitations et qui interpelle les membres du réseau en disant qui pourrait héberger Ibrahima ce soir qui est à la rue, qui était au 115 jusqu'à hier et qui n'a plus de place au 115. Et donc, il y en a un qui lève le doigt, évidemment, de façon électronique sur WhatsApp et qui prend en charge ce jeune. Mais c'est quelquefois assez lourd quand on est peu nombreux à pouvoir faire des hébergements. Et plus on est nombreux, plus on peut se répartir la tâche et puis échanger et même se soutenir les uns les autres. C'est beaucoup plus facile.
Qu'est-ce que j'allais justement vous demander, ce que ça représente humainement d'ouvrir sa porte à un adolescent inconnu, souvent en grande détresse. Là, vous parlez de situation d'urgence. Combien de temps est-ce que dure l'hébergement? Est-ce que chaque jour, on se repose la question? Est-ce que ça peut être sur du plus long terme?
C'est très, très variable. Ça peut aller de quelques jours, mais qui se répète peut-être au fil des mois. C'est quelques jours de temps en temps. Ça peut être sur une plus longue durée. Il y a eu la période des confinements pendant le Covid, où là, évidemment, il y a eu plus d'hébergement dans la durée de certains jeunes. C'est très, très variable.
Ouais. Et puis, la règle, c'est que on ne veut pas se substituer non plus à l'État, c'est-à-dire que d'abord, les jeunes, ils appellent le 115 le matin, et nous, effectivement, s'ils n'ont pas de place, c'est à ce moment-là, vers midi, ils nous envoient un petit message sur notre WhatsApp, et c'est là que la personne qui coordonne, elle dit, bah voilà, celui-ci n'a pas de place, comment on peut le prendre? Et puis après, voilà, après, c'est très... La durée de prise en charge, elle va jusqu'à la réponse du juge des enfants, et puis après, bah... Après, les jeunes, bah, ils font aussi leur chemin. Puis après, c'est très variable. C'est aussi des familles qui vont dire « Bon, ben bah, voilà, nous c'est dans le cadre comme ça nous correspond. » Puis il y en a d'autres qui disent qu'ils se sont attachés et qui vont dire « Ben bah, non, on n'a pas envie qu'il retourne en 115, donc il va rester à la maison. » Donc, c'est très, très variable.
Concrètement, le bénévole est accompagné par l'association. Il n'est pas seul, celui qui s'engage.
Oui, tout à fait. Ça, c'est important à signaler. C'est-à-dire que déjà, il existe une charte de l'hébergeur et de l'hébergé qui stipule un petit peu les droits et les devoirs de chacun. Donc ça, ça protège. Et puis, on peut aussi, quand il y a des jeunes voilà, qui sont hébergés, des familles qui se posent des questions et tout ça. Alors, on est quand même une association assez conviviale. Donc, on se fait notre petit apéro mensuel des hébergeurs. Où là, voilà, on peut expliquer un petit peu les difficultés qu'on rencontre, ou dire, bah voilà, ça en est où pour ce jeune-là et tout ça. Et puis, voilà, si on a à intervenir, bah, l'association, elle est là pour aider la personne qui accompagne, la personne qui accueille chez elle. Un jeune ne se retrouve pas tout seul, quoi.
Voilà, quand on est membre de l'association, on n'est effectivement pas tout seul. On est accompagné, on fait partie d'un groupe de gens qui se connaissent et qui échangent entre eux. On n'est pas obligé d'héberger. On peut aussi donner un coup de main pour accompagner un jeune à aller chez un avocat ou aller à un rendez-vous médical, l'accompagner aussi à une inscription à l'école. Donc, il y a des tas de tâches qui peuvent se faire. Ce n'est pas seulement l'hébergement qui peut parfois faire un peu peur, alors qu'en même temps, c'est quelque chose de très gratifiant pour l'hébergeur comme l'hébergé, parce que c'est une rencontre et ce sont de vrais beaux moments.
Justement, qu'est-ce que ça apporte aussi aux bénévoles? C'est des rencontres, la rencontre avec des cultures aussi différentes.
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est s'ouvrir aux autres, apporter nous ce qu'on peut donner, mais c'est aussi, on reçoit beaucoup quoi, on reçoit beaucoup sur la culture, mais aussi sur les valeurs humaines, sur le vivre ensemble, voilà, à partir du moment où on est un petit peu curieux d'esprit, bah, je trouve que c'est vraiment une expérience phénoménale quoi, qui peut être aussi... vécu en famille, c'est aussi important des fois. Enfin, moi, je vois, j'ai deux garçons qui peuvent avoir maintenant, même qui sont plus grands que des jeunes qu'on a accueillis au début. Bah, ça reste de véritables copains, quoi. Donc, c'est l'ouverture aux autres, ouais, c'est super important.
Comment ces jeunes vivent cette forme d'accueil temporaire? Est-ce qu'ils s'y sentent en sécurité? Comment c'est perçu de leur côté, des retours que vous pouvez avoir?
Bon, c'est pas à nous de le dire, ça serait à eux, mais très clairement, on le ressent. Ils sont très reconnaissants et bien sûr, pour eux, c'est une chance formidable et ils le font savoir. On se réunit avec eux tous les ans, on fait une fête avec les hébergeurs et les hébergés ou les anciens hébergés. Et ça fait chaud au cœur pour nous, hébergeurs, de les entendre dire merci parce qu'ils ont été vraiment sortis de la rue grâce à nous.
Oui, il y a des parcours justement qui donnent, encourageants, qui donnent de l'élan peut-être par rapport à votre engagement, des jeunes qui s'en sortent.
Oh bah, on a des exemples concrets. Hein.
Oui, oui, oui. On a... enfin, là, par exemple, cette année, on a eu peut-être 6 ou 7 jeunes à passer leur CAP. Ils l'ont tous eu avec mention assez bien, quoi, minimum. Et puis, comment dirais-je, voilà, on a un jeune qui a eu son CAP. Et oui, c'est des beaux moments. Voilà, ils ont participé à un concours national qui s'appelle le prix Colbert, hein, avec le lycée Gaston Lénard. Et en fin de compte, ces jeunes-là, ils ont été lauréats de l'académie sur un projet qui s'appelle bon, Construire pour déconstruire, mais c'était quand même un projet de solidarité, donc c'est pas anodin. Et en fin de compte, voilà, tous les lauréats académiques ont été sélectionnés au niveau national, ils ont le grand prix du jury. Voilà, et dans ces trois-là, dans ces trois jeunes-là, il y a un jeune des hébergeurs. Voilà. Et en fin de compte, sur ce que tu as dit, Didier, quand on fait notre fête annuelle, eh ben, y a des jeunes donc, qui ont eu des parcours qui ne sont plus sur Laval, hein, pour raisons professionnelles ou qui ont poursuivi des études ailleurs. Eh ben, en fin de compte, ils sont toujours là à la fête des hébergeurs. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est...
Et ouais, certains sont même membres bénévoles de l'association.
Ouais, tout à fait.
Vous écrivez que cette solidarité ne peut pas se substituer durablement aux responsabilités publiques. Jusqu'où peut aller l'engagement bénévole selon vous ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas combler justement ?
Ouais, c'est une bonne question.
C'est une bonne question bien difficile. Jusqu'où, de toute façon, l'association n'a pas de pouvoir juridique et ne peut pas déterminer, décréter ou autoriser ou donner des papiers à un jeune. Donc, l'intervention de l'association se limite à aider ces jeunes à faire les démarches, à les prendre en charge, à les soutenir. Ne peut pas finaliser leur intégration dans la société française.
Mais ouais, et peut-être que c'est là où c'est intéressant, peut-être de faire partie de coordination nationale, parce qu'effectivement, quand il y a toutes les associations de France qui disent à peu près la même chose, c'est un plaidoyer qui peut avoir son importance au niveau national sur la prise en charge de ces jeunes-là. Et effectivement, nous, on fait ce qu'on peut dans la Mayenne, mais c'est quand même important de faire partie de ce réseau, quoi.
Vous disiez en début d'entretien que la présomption de minorité censée protéger ces jeunes jusqu'à la décision du juge n'est pas respectée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que leur minorité est mise en doute et dans le doute, les jeunes sont obligés de faire un recours devant le juge pour enfants. Les délais pour ces recours sont de plus en plus longs et ce qui fait que ça retarde et qu'au bout du compte, rien n'aboutit. Alors que normalement, quoi, si on allait jusqu'au bout des engagements de protection des mineurs, tant que la décision formelle de dire ce jeune est majeur, donc on ne le prend pas en charge, mais tant que ça, ce n'est pas déterminé, les pouvoirs publics devraient assumer leurs responsabilités et les prendre en charge provisoirement, les présumer mineurs systématiquement.
Et justement, vous évoquez la double condamnation de la France par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Concrètement, la France est condamnée, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction, de
réajustement. Oui, bah, c'est la politique de l'autruche. Hein, et, on fait le dos rond et puis voilà, on attend que les protestations passent, mais on essaye de repousser au maximum ce genre d'engagement, quoi.
On en a dit quelques mots. Comment ces jeunes perçoivent-ils la France aujourd'hui après ce qu'ils ont traversé et le parcours du combattant qui s'ensuit ensuite ?
Bah, après, moi, je pense que les jeunes, nous qu'on peut accueillir, ils ont une réelle volonté de s'intégrer. Voilà, on le voit bien. Déjà, c'est des jeunes qui ont des parcours scolaires tous exemplaires. Voilà. Deuxièmement, c'est aussi des jeunes qui participent à la vie locale, c'est-à-dire que on a des jeunes qui font partie du conseil municipal des jeunes à Laval. je pourrais citer l'exemple de samedi dernier où il y avait une formation les jeunes et le climat. Bon, il y en avait 7 de l'association qui ont été. En fin de compte, c'est au-delà de la réussite personnelle, ils y tiennent bien entendu, c'est aussi un certain respect vis-à-vis du pays qui les accueille. Et après, effectivement, on peut se poser la question de ces jeunes quand ils vont grandir. En fin de compte, même s'ils ne le verbalisent pas parce qu'ils sont là pour aller à l'école et réussir, on peut se poser la question de ces jeunes-là peut-être à devenir, quelle image ils vont avoir ou ils vont, le discours qu'ils peuvent avoir sur quelque part ce parcours du combattant parce qu'on n'a pas voulu d'eux à un moment donné alors qu'ils étaient enfants. C'est vrai, je n'ai pas de réponse à ça. Mais en tout cas, nous, ce que l'on peut constater, que c'est vraiment des jeunes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de courage pour réussir leur parcours. Hein.
Comment, en tant que bénévole, on garde la force et la foi quand on se heurte à autant de lenteur et d'injustice ?
Bah, c'est justement ces exemples de réussite hein, et quand on en voit qui arrivent à s'en sortir malgré tout et qui viennent nous remercier ou nous montrer qu'ils ont été ils ont pu réussir et qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis de l'association et du pays qui les accueille en général, bah, ça nous redonne beaucoup de morale et ça nous incite à poursuivre, à continuer avec d'autres.
Oui, moi, en ce qui me concerne, je dirais ce qui me donne le moral, forcément, c'est les jeunes, leur parcours. Mais pour moi aussi, c'est faire partie de cette coordination nationale pour peut-être pouvoir faire changer les choses et de se dire, voilà peut-être ce qui se passe en Mayenne. Il y a des choses qui sont peut-être pas logiques. Voilà, quand on voit aujourd'hui que on a reçu des notifications 2 ans après le jugement où le jeune il est majeur, alors qu'il a de nouveaux papiers et tout ça, on se dit quelque part il y a ce petit sentiment d'injustice. Alors peut-être que nous en tant que bénévoles on peut avoir, mais que le jeune est, démultiplié par.
On change des trajectoires de vie.
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et c'est ça qui donne du courage quelque part. Ouais.
Et alors j'imagine l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute et qui se dit qu'il a peut-être envie de vous rejoindre dans cet élan de solidarité, dans ses parcours humains. Comment est-ce qu'il fait pour prendre des informations, vous rencontrer ?
Alors on a donc une page Facebook Hébergeur Solidaire 53 où on peut avoir les informations de l'association et un numéro de téléphone de l'association que
ouais,
Bénédicte
fait,
va vous dicter.
Ouais, alors le 07 53 20 51 06.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé avec nous et de nous avoir alertés.
Eh bien, merci Margot de nous avoir permis de parler de ce sujet si délicat avec vos auditeurs et avec vous.
Enlacés, la lumière est si belle, la lumière est mortelle. À la fin de l'été, blotti dans mes bras, la lumière est si belle, la lumière est mortelle. J'appelle la nuit qui vient nous embrasser. Où danse la nuit. dans le cœur où disparaît la peur. Viens te réfugier sous la belle assemblée des étoiles amies où danse la nuit.
C'était Arthur H et Lioubia avec Danser la nuit. Alors, il y a mille façons de s'échapper. Certains partent loin, d'autres juste au bout de la rue. Nous, on croit que la plus belle des échappées, c'est celle qu'on vit ici chaque semaine au détour d'un concert, d'un spectacle, d'un film ou d'une rencontre. Alors, prenez votre élan. Voici nos échappées de la semaine et on commence dans le sud de Mayenne avec Maël Grenier, directeur du Carré à Château-Gontier. Écoutez.
Vendredi 7 novembre, nous invitons le public à nous rejoindre sur le territoire à Gênes-sur-Glaise pour la 7e édition de À Table. À Table, c'est cette biennale de théâtre d'objets qui est coportée par 11 partenaires sur le territoire essentiellement départemental. Il s'agit d'inviter le public à assister à deux petites formes de théâtre d'objets entrecoupées d'un ou deux moments de repas. Donc c'est une soirée toute en convivialité. Et le principe d'À Table, c'est de faire une commande d'une petite forme de théâtre d'objets et d'accueillir une forme qui est déjà créée, qui a peut-être un ou deux ans et qui tourne déjà sur différents lieux au niveau national. La petite forme que nous avons commandée, on l'a commandée à une jeune artiste qui s'appelle Célia U et qui est accompagnée par le collectif Ayayay, un collectif rennais qui a déjà été accueilli sur À Table notamment. Elle va créer une forme qui s'appelle Is. Donc Is, c'est une histoire de marin. Voilà, c'est une histoire d'amis, mais de marins, dont le personnage principal est épris d'aventures et de grands espaces. Et évidemment, d'espaces maritimes, mais aussi d'espaces presque cosmiques, puisque le point de départ de son histoire, c'est d'imaginer un endroit qui soit éloigné de toute terre, qui s'appelle le point Nemo, qui existe. Et à partir de cet endroit-là, elle raconte une histoire d'amitié, une histoire d'aventure. Et ça, c'est la première forme, donc on va la découvrir avec le public. Et la deuxième forme, c'est Tout Rien, de la compagnie Modo Grosso, une compagnie belge, avec Alexis Rouve, qui est un manipulateur incroyable, et qui nous emmène dans un univers très contemplatif autour de l'écoulement du temps. Et il nous fait réfléchir à ce principe là, du temps qui passe à travers une manipulation de différents objets et de différentes matières. Donc c'est extrêmement virtuose. Voilà, donc on invite le public à découvrir deux artistes incroyables et aussi à partager le repas avec nous. Donc il faut réserver le repas. Tout ça est prévu à Gênes-sur-Glaise.
Et on continue avec Marie Collet du théâtre L'Entracte qui nous parle d'une date à venir très vite et dont on vous reparlera la semaine prochaine dans l'Agité du local ce lundi. Écoutez.
On a été conquis par le spectacle Tous les jours, donc le 5 novembre à 19h. Tous les jours, c'est une pièce un peu particulière à partager entre ados, adultes, sur une thématique bien forte de société qui est le harcèlement scolaire. La particularité de la pièce, c'est qu'en fait, la compagnie, elle a imaginé un procès fictif où le harcèlement scolaire vient répondre de ses actes devant ses victimes, devant des témoins. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans une proposition où tout est noir, tout est blanc. On est vraiment sur quelque chose avec des nuances, avec à quel moment, selon où on se positionne, nous aussi, on peut être harceleur, on peut être harcelé. Donc, on est vraiment sur un spectacle qui permet de libérer la parole et d'en parler. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie d'inscrire ce spectacle-là dans le cadre du CLÉAC, porté par la ville de Sablé et le pays sabolien. Ce qui fait que tous les collèges et lycées qui viendront au spectacle auront une action de médiation qui sera portée par le CISPD, la Microfolie, le réseau des médiathèques et l'Entracte, avec un accompagnement par les araignées philosophes pour essayer de débloquer la parole sur ce sujet qui est vraiment important.
Et on termine avec une voix que vous connaissez bien, celle de Nicolas Moreau, notre chroniqueur scène musique locale, mais aussi animateur bien sûr de l'émission Transistor qui nous parle du prochain rendez-vous Transistor Live.
La prochaine émission Transistor Live sera en effet une émission spéciale compile et conviera donc sur scène quatre groupes figurant sur la compilation Transistor, dont Mountain donc, mais aussi Bloodflower, le quartet de rock oblique The Animal Objective. Et last but not least, sera aussi de la partie le groupe de Pierre Bouguier Mémé Les Watts en version XXL avec 8 musiciens sur scène. Rendez-vous donc le 6 novembre dans la magnifique salle du Carré à Château-Gontier pour 2 heures de live et d'interview. L'émission est bien sûr ouverte au public et gratuite.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bénédicte et Didier d'avoir été avec nous. Votre émission se termine. Sa musique originale est signée Les Naïcs Folzour. Votre soirée commence à 19h sur les ondes de l'autre radio avec l'émission Eldorado. C'est une émission de radio consacrée aux musiques folk, rock. Ensuite, on continue en musique à 21h avec All Blues. Au programme, une piqûre de rappel sur le Montfort Blues Festival et bien entendu, un tas de nouveautés blues. Moi, je vous dis à demain pour la dernière émission de l'Agité du local de la semaine. Ce sera le best-of de la semaine. Vous le savez bien, d'ici là, avancez léger, sans trop compter les jours. Le jeudi a parfois des airs de promesses de fin de semaine, d'un week-end agréable. S'il vous plaît, faites-le bien.
Chut, ça s'éteint.
Jusqu'à demain, Mimi.